Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série, on peut dire extraordinaire. Rappelez-vous du titre, tu n'as qu'une seule vie, elle est bientôt passée, tu n'as que un aller simple dans ta vie. Nous arrivons donc à l'étude numéro 2. Chers amis, une chose très importante, Christ doit apparaître de manière explicite chaque fois que nous parlons de Dieu. Il ne sert à rien, à notre époque marquée par le pluralisme, d'évoquer la gloire de Dieu en termes très vagues. Dieu sans Christ n'est pas Dieu du tout. Et un Dieu qui n'est pas Dieu ne peut ni sauver ni satisfaire notre âme. Suivre un faux Dieu, quel que soit son nom ou sa religion, cela mène à une vie gâchée. C'est Dieu en Christ qui est le seul vrai Dieu et représente le seul accès qui doit être mis en relation avec Jésus-Christ. Oui, seul ce qui a été fait pour Jésus-Christ va perdurer. Je répète, seul ce qui a été fait pour Jésus-Christ va perdurer. Ni Bouddha, ni Mohammed. Pour nous faire connaître le plus intense et le plus durable de tous ses plaisirs, Dieu a amené son Fils Jésus-Christ à offrir le spectacle sanglant de la souffrance et de la mort d'une victime innocente. Voilà à quel prix nous avons été délivrés d'une vie gâchée. L'éternel Fils de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Philippiens, chapitre 2, versets 6, 7 et 8. Puisque Jésus-Christ est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, ainsi que l'exprime le vieux credo de Nicée, et puisque sa mort et sa résurrection représentent l'accès principal de Dieu dans l'histoire, il n'est pas surprenant de dire et de lire dans la Sainte Bible que tout a été créé par lui et pour lui. Je répète, puisque Jésus-Christ est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, ainsi que l'exprime le vieux credo de Nicée, et puisque sa mort et sa résurrection représentent l'acte principal de Dieu dans l'histoire, il n'est pas surprenant de dire, et de lire surtout, dans la Sainte Bible, que tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens, chapitre 1, verset 16. Pour lui, c'est-à-dire pour sa gloire, cela signifie aussi que tout ce qui a été dit jusqu'ici concernant le fait que Dieu nous a créés pour sa gloire, cela implique qu'il nous a également créés pour la gloire de son Fils bien-aimé. Dans sa prière en Saint Jean, chapitre 17, voici ce que Jésus demande en premier. Il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Saint Jean, chapitre 17, verset 1. Depuis l'œuvre rédemptrice de Christ accomplie dans l'incarnation, les pécheurs ne peuvent joyeusement glorifier Dieu qu'au travers de la glorification de Jésus-Christ qui est l'homme-Dieu ressuscité. Donc, sa mort en sacrifice, c'est le centre éblouissant de la gloire divine. Il n'y a pas d'accès à la gloire du Père en dehors du Fils. Toutes les promesses de joie dans la présence de Dieu et de plaisir à sa droite ne sont que accessibles qu'à travers la foi en Jésus-Christ. Donc, chers amis, rejeter Jésus-Christ, c'est rejeter Dieu. La réaction face à Jésus représente l'épreuve de vérité pour toute personne et pour toute religion. Il a clairement énoncé ce principe lui-même. Il a dit, « Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Saint Luc, chapitre 10, verset 16. Les peuples et croyances qui rejettent Jésus-Christ, ils rejettent Dieu. Quand nous nous demandons si les autres religions ont accès au vrai Dieu, appliquons-leur ce test. Rejettent-elles Christ, crucifié et ressuscité par Dieu, comme étant le seul sauveur pour les pécheurs? Si tel est le cas, alors elles ne connaissent pas Dieu capable de sauver. Je répète, les peuples et croyances qui rejettent Christ, ils rejettent Dieu. Quand nous nous demandons si les autres religions ont accès au vrai Dieu, appliquons-leur ce test. Rejettent-elles Christ, Christ crucifié et ressuscité par Dieu, comme étant le seul sauveur pour les pécheurs? Si tel est le cas, alors elles ne connaissent pas Dieu qui est capable de sauver. Ils adorent un faux Dieu, c'est-à-dire une idole. C'est ce que Jésus voulait dire en déclarant « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. » Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Ou lorsqu'il affirmait « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. » Saint Jean, chapitre 5, verset 23. Ou encore, quand il s'est adressé aux pharisiens en ces termes, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Saint Jean, chapitre 8, verset 42. C'est aussi ce que voulait dire l'apôtre Jean lorsqu'il a déclaré « Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Or celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 23. Où lorsqu'il a écrit que quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Jésus-Christ n'a pas Dieu. Deuxième épître de Saint Jean, verset 9. Il n'y a donc pas lieu d'idéaliser les religions qui rejettent la divinité et l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Elles ne connaissent tout simplement pas Dieu et leurs adhérents gâchent tragiquement leur vie. Pour voir et goûter la gloire divine, il faut voir et goûter Christ, car il est l'image du Dieu invisible. Colossiens, chapitre 1, verset 15. En d'autres termes, si nous voulons saisir la gloire divine, nous devons saisir l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi cela ? Eh bien, pas seulement parce que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur qui meurt pour nous, mais aussi parce que ce sauveur est lui-même la manifestation la plus complète et la plus belle de la gloire divine. Il nous acquiert un plaisir éternel, oui, que nous ne méritons absolument pas. Et il devient notre trésor éternel qui mérite de tout recevoir. Chers amis, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la beauté qui a triomphé de tout. Ou pour le dire à la manière de l'apôtre Paul, c'est la bonne nouvelle de la gloire de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas goûter la gloire divine si nous ne la voyons pas en Jésus-Christ. C'est la seule fenêtre par laquelle un pécheur peut vraiment voir le visage de Dieu sans être foudroyé. Voyez-vous, la Sainte Bible dit que lorsque Dieu a illuminé notre cœur à la conversion, il a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Notez 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Soit nous voyons la gloire de Dieu luire en la personne de Jésus-Christ, soit nous ne la voyons pas du tout. Et son apogée, elle se trouve à la croix. Le visage ensanglanté de Jésus-Christ crucifié et triomphant, il est l'expression même de la gloire divine. Ce qui était folie pour nous est devenu notre sagesse, est devenu notre puissance et notre gloire. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 à 24. Nous gâchons donc notre vie si nous ne saisissons pas la gloire de la croix, si nous ne chérissons pas le trésor qu'elle représente et si nous ne nous y accordons pas et nous ne nous y accrochons surtout pas comme à la plus grande, je dis bien, à la plus grande de toutes les valeurs et à la consolation la plus profonde. Mes chers amis, à l'opposé d'une vie gâchée se situe une existence caractérisée par une passion unique, celle de célébrer Dieu et de satisfaire l'âme. Une vie correctement vécue doit en effet à la fois exalter Dieu et satisfaire l'âme, car c'est pour cela que nous avons été créés, est-il dit, dans Ésaïe chapitre 43 verset 7 et notez le psaume 90 verset 14. Le zèle, la ferveur, l'ardeur et l'enthousiasme est tout à fait approprié puisque Dieu, il nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. Notez Saint Matthieu, chapitre 22, verset 37. Du reste, dit Offenbarung, donc l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 16, nous dit quelque chose de très sérieux. Il nous est dit que Jésus rappelle aussi qu'il vomit tous les tièdes. Je répète, Jésus nous rappelle aussi qu'il vomit tous les tièdes. Apocalypse 3, verset 16. Ça, c'est donc très sérieux. À présent, voyons quelle est la portée de l'adjectif unique. La vie peut-elle réellement n'avoir qu'un seul but? Est-ce que toutes nos activités, telles que travailler, nos détentes, communiquer, manger, nous aimer, exercer un ministère, peuvent exclusivement découler d'une seule et même passion? Existe-t-il quelque chose de suffisamment profond, important et puissant pour englober tout cela simultanément? Est-ce que les avantages sexuels, les voitures de luxe, le travail, la guerre présentent réellement une unité qui exalte Dieu et satisfait l'âme? Vivre pour la gloire de Dieu, cela implique nécessairement de vivre pour la gloire de Jésus-Christ crucifié. Christ est l'image de Dieu. Il est l'intégralité de la gloire de Dieu sous forme humaine. Et c'est dans ses heures les plus sombres que son éclat est le plus fort. Ainsi, l'apôtre Paul disait de sa vie et de son ministère qu'ils étaient animés par une seule ambition. Il a dit « J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Notez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. L'affirmation est surprenante lorsque on pense à la variété des sujets abordés par l'apôtre Paul. Il doit bien y avoir une raison pour qu'il présente Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié comme étant le fondement, comme étant l'essence de tous ses propos. L'apôtre nous invite donc à bâtir notre existence autour d'un centre d'intérêt unique et à considérer que ce centre d'intérêt, c'est la croix de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'être séduisants ou être riches, ni même de venir d'une famille en vue ou d'avoir fréquenté les plus grandes écoles. En revanche, nous avons besoin de connaître quelques-unes des grandes vérités de l'existence, des vérités majestueuses, immuables, évidentes, simples et glorieuses, ou une vérité glorieuse qui les englobe toutes, et de laisser notre cœur être enflammé par elles. Chers amis, en avril, année 2000, Ruby Eliasson et Laura Edwards ont été tués en Afrique de l'Ouest, au Cameroun. Ruby avait plus de 80 ans. Elle avait consacré toute sa vie, je dis bien toute sa vie de célibataire, à une tâche glorieuse, c'est de faire connaître Jésus-Christ aux personnes totalement isolées, pauvres et malades. Quant à Laura, elle était veuve et en même temps une personne très connue comme médecin. Âgée de près de 80 ans, elle a décidé de servir aux côtés de Ruby au Cameroun. Or, un jour, les freins de leur voiture ont lâché et la voiture a été entraînée dans un grand précipice. Ruby et Laura ont été tués sur le coup. J'ai demandé, est-ce vraiment une grande tragédie? Deux vies guidées uniquement par une grande passion, celle de servir les pauvres sans faire de tapage, uniquement pour la gloire de Jésus-Christ. 20 ans encore après cela que leurs anciens collègues avaient gaspillé leur temps de retraite en le consacrant à des futilités égoïstes. Non, 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 ce n'était pas une tragédie. C'était glorieux, bien au contraire. Ces vies n'ont pas été gâchées du tout. Elles n'ont pas davantage été perdues, car il est dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il ou elle la sauvera. Saint Marc, chapitre 8, verset 35. Chers amis, je vais vous dire ce que je considère comme une tragédie. Écoutez bien. Je vais vous montrer comment vous pouvez gâcher votre existence. Le Reader's Digest de février parlait d'un couple qui avait pris sa retraite 5 années plus tôt. La dame était alors âgé de 51 ans, l'homme de 59 ans. Ils avaient décidé de partir pour vivre à Punta Gorda, en Floride, et ils passaient leur temps à partir en croisière sur leur bateau de 15 mètres. Tout cela uniquement à s'amuser et à compléter leur collection de coquillages. À la lecture de cette histoire, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un canular, d'une parodie du rêve américain. Mais c'était, hélas, un fait réel. Quelle tragédie! Parvenir à la fin de votre existence, de votre unique et précieuse existence offerte par Dieu, et considérer que votre ultime grande œuvre, celle qui précède immédiatement votre comparution devant le Créateur pour lui rendre des comptes, doit consister à se détendre sur un bateau et à ramasser des coquillages. Imaginez ces deux personnes devant Christ lors du grand jour du jugement et de dire Regarde, Seigneur, oh, regarde tous mes coquillages. Ça, croyez-moi, chers amis, c'est une grande tragédie. Et de nos jours, oui, certains investissent des fortunes pour nous persuader d'embrasser, plutôt d'embrasser, ce fameux rêve tragique. Je proteste donc avec toute mon énergie, et s'il vous plaît, je vous le demande, ne gâchez pas votre existence. Voyez-vous, notre existence a pour but de propager la passion de la suprématie de Dieu en tout, pour la joie de tous à travers Jésus-Christ. Vous n'êtes pas obligé de l'exprimer dans les mêmes termes que moi, mais quoi que vous fassiez, cherchez à découvrir quelle est la passion qui va guider votre vie. Cette passion doit être centrée uniquement sur Dieu, doit exalter Jésus-Christ et être imprégnée de la Sainte Bible. Trouvez donc votre propre manière de l'exprimer et consacrez-vous entièrement à elle, à la vie et à la mort. C'est ainsi que vous produirez un impact durable et que votre vie ne sera pas gâchée. Et c'est ainsi que vous ressemblerez à l'apôtre Paul lorsqu'il a déclaré ne rien vouloir connaître excepté Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Personne n'a eu de conception de la vie plus tenace que lui, et il l'a exprimée de différentes façons. Il a pu dire « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Notez Actes, chapitre 20, verset 24. Une seule chose lui importait, c'est de ne pas gâcher sa vie, terminer son parcours de belle façon, révéler l'évangile de la grâce, de cette grâce divine, dans tout ce qu'il faisait et persévérer jusqu'à l'arrivée. L'apôtre Paul a pu dire aussi ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme étant une perte à cause du bien suprême que est la connaissance de Jésus-Christ, mon merveilleux Sauveur et Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller absolument de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Jésus-Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée uniquement sur la foi. Notez Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. Une seule chose comptait, c'est de connaître Christ et de gagner Christ. Le reste n'était que de la boue en comparaison. Chers amis, quelle est la passion qui guide votre vie et fait pâlir tout le reste? Je souhaite vivement, avec l'aide de Dieu, parvenir à éveiller en vous une passion unique envers une grande réalité unique qui vous dégage de vos liens, vous affranchit de vos rêves étriqués et vous envoie, pour la gloire de Jésus-Christ, dans toutes les sphères de la société et vers tous les peuples de la terre. Nous gâchons notre vie si nous ne saisissons pas la gloire de la croix, si nous ne chérissons pas le trésor qu'elle représente et si nous ne nous y accrochons pas comme à la plus grande de toutes les valeurs et à la consolation la plus profonde dans la souffrance. Ce qui était folie pour nous par le passé doit devenir notre sagesse, doit devenir notre force et notre seul sujet de fierté dans ce monde. Plus nous trouvons notre satisfaction en lui, en Dieu, plus sa gloire rayonne en nous. C'est lorsque il devient lui, notre unique sujet de gloire, que nous l'exaltons le plus. Les pécheurs ne peuvent voir et goûter la gloire de Dieu que à travers la gloire de Jésus-Christ. Toute autre approche de Dieu est illusoire. C'est une illusion. Si nous souhaitons montrer la grandeur de Dieu, nous devons montrer la grandeur de Jésus-Christ. Sa mort à la croix, elle constitue, même, on peut dire, le centre étincelant de la gloire divine. Si Dieu doit être notre sujet de fierté, ce qu'il a accompli et ce qu'il est en Christ doit l'être aussi pour nous. Chers amis, notez Galates chapitre 6, verset 14. C'est l'un des versets les plus catégoriques et les plus radicaux de la Sainte Bible. C'est l'un de ceux aussi qui élève le plus Jésus-Christ. J'ai dit Galates chapitre 6, verset 14. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. On peut le formuler de façon positive. Je ne veux tirer ma fierté que de la croix de Jésus-Christ. C'est la seule notion qui compte. C'est le seul objectif de la vie. C'est la seule passion qui l'anime. C'est la fierté par rapport à la croix. Le verbe tirer sa fierté de peut être traduit en jubilé à cause de ou se réjouir de. Le seul motif de jubilation, le seul sujet de joie, c'est la croix de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous appelle à en faire notre passion, à en faire notre seul sujet de fierté, de joie et de jubilation. Si vous me comprenez bien, et j'espère qu'il en sera ainsi avant la fin de cette série, dans ma prière pour vous, chers auditeurs et chères auditrices, que la seule chose que vous chérissiez, la seule chose qui représente pour vous un sujet de joie et de jubilation soit uniquement la croix de Jésus-Christ. L'affirmation de l'apôtre Paul que nous devrions tirer notre seule fierté de la croix de Christ semble choquante pour deux raisons. La première, c'est que cela revient à dire de tirer notre seule fierté de la chaise électrique, jubiler uniquement en songeant à la chambre à gaz. Réjouissez-vous exclusivement de l'injection mortelle à Bâle en Suisse, ou que votre seul sujet de fierté, de jubilation et de réjouissance soit peut-être la guillotine. On n'a pas inventé, croyez-moi, de moyens d'exécution plus douloureux et plus cruels que celui qui consiste à clouer quelqu'un sur une croix, puis de l'abandonner ainsi là, dans son agonie, tel un vulgaire morceau de viande suspendu. C'est un supplice absolument horrible. Nous serions incapables d'y assister sans hurler, sans nous arracher les cheveux ou de déchirer nos vêtements ou sans vomir. Et pourtant, l'apôtre Paul affirme que c'est cela qui doit consister la passion de notre vie. Oh, je ne dis pas que Dieu demande et qu'il exige cela de chacun d'entre nous. Jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix, que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, car par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Qu'attend-il par là? Est-il vraiment sérieux? Il n'y aurait donc pas d'autres motifs de fierté? Il n'y aurait pas d'autres sources de jubilation? Pas d'autres sujets de joie que la croix de Jésus? Non, non, non. Ni mon yacht, ni mon bateau de 15 mètres, ni ma Ferrari pourra m'aider pour la fin de ma vie. Oui, le rachat de tout est uniquement, écoutez bien, par Jésus-Christ. Pourquoi de telles affirmations? Parce que pour nous pécheurs rachetés, tout ce qui est bon, en fait, toute transformation de mauvaises choses en bonnes choses par Dieu, tout cela nous a été acquis à travers la croix de Jésus-Christ. En dehors d'elle, les pécheurs, ils n'ont droit que au jugement. En dehors de la croix de Christ, il ne reste que la condamnation. Par conséquent, tout ce dont nous jouissons en Christ, et tant que chrétiens que nous sommes, et en tant que personnes ayant placé notre confiance en Christ, tout cela est dû à sa mort au calvaire. Quel que soit notre motif de réjouissance, il devrait donc être associé à la croix de Christ, parce que c'est là, au prix de la mort du Fils de Dieu, que ont été acquises toutes nos bénédictions. si nous ne sommes pas aussi christocentriques, donc centrés sur Christ, ni aussi imprégnés de la croix que nous devrions l'être, c'est parce que nous n'avons pas pris conscience que tout ce qui est bon pour nous, ou tout ce que Dieu a transformé en bien pour nous, nous a été acquis uniquement par la mort de Jésus-Christ. Nous considérons donc la vie, la nourriture, la santé, les amis et tout le reste comme allant de soi. Nous pensons que tout cela nous a été dû. Or, en réalité, il n'en est rien. Nous ne le méritons même pas. Et ce, à double titre. Premièrement, tout d'abord, nous sommes des créatures et notre Créateur n'est pas tenu ni obligé de nous accorder quoi que ce soit, qu'il s'agisse de la vie, de la mort ou de n'importe quoi d'autre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Reconnaissez un certain merveilleux Job. Job, chapitre 1, verset 21. Et deuxièmement, outre le fait que nous sommes des créatures et n'avons aucun droit d'exiger quoi que ce soit du Créateur, nous sommes uniquement des pécheurs qui ont été rachetés à un très grand prix. Nous sommes donc privés, en quelque sorte, de la gloire de Dieu, selon Romains, chapitre 3, verset 23. Tout cela, nous l'avons trop longtemps ignoré. Nous lui avons désobéi, moi le premier. Nous avons manqué à notre devoir de l'aimer et de lui faire confiance, moi aussi. La colère animée par sa justice, elle est enflammée contre nous. La seule chose que nous méritons de recevoir de lui, c'est donc le jugement, selon Romains chapitre 3, verset 19. Par conséquent, chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque lever de soleil, chaque image que perçoit notre œil, chaque son que capte notre oreille, chaque parole que nous prononçons, chaque pas que nos jambes exécutent, tout cela est un don de grâce qui a été accordé momentanément à des pécheurs qui n'auraient droit que à la condamnation. J'ai précisé momentanément parce que si nous refusons et continuons de refuser de connaître la main de Dieu derrière tous ces dons, ceux-ci vont se transformer en preuve judiciaire de notre ingratitude. La Sainte Bible les qualifie de richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité qui devraient nous pousser à la repentance. Romains chapitre 2 verset 4. Mais elle précise aussi à l'intention de ceux qui abusent de ces dons et n'apprécient pas à sa juste valeur la grâce divine qui se manifeste à travers eux, il est dit, par ton endurcissement et par ton refus de te repentir, eh bien tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Notez bien Romains, chapitre 2, verset 5. En revanche, ceux qui savent percevoir la main pleine de grâce de Dieu dans la moindre bouffée d'oxygène qu'ils respirent, ils reconnaissent en Jésus-Christ celui qui leur a obtenu ces bouffées d'air imméritées. Ainsi, tout battement de cœur est d'accueillir comme un véritable cadeau de sa part. Ô chers amis, comment Christ nous a-t-il obtenu toutes ces bénédictions? La réponse, c'est par son sang précieux. Si tout ce que je mérite, c'est d'être condamné à cause de mon péché et que j'hérite au contraire de la vie présente et d'une joie infinie dans l'éternité, c'est pour la simple raison que Jésus-Christ, il est mort pour moi. Alors, tout ce qui est bon, y compris toutes les choses mauvaises, ont été changées en bien par Dieu, mon Père, et ne peut être que le fruit uniquement de ses souffrances et non pas de mes mérites, jamais. À présent, nous voyons que chaque expérience dans la vie est destinée à célébrer la croix de Jésus-Christ. Autrement dit, toutes les bonnes choses de la vie, y compris toutes mauvaises choses qui ont été transformées par grâce en bien, visent à louer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Chers amis, si nous sommes des pécheurs sauvés, si nous croyons en Jésus, les grâces qui découlent uniquement de la croix, car voyez-vous, en dehors de la croix, nous n'avons droit que, et vous l'avez compris, à la condamnation. Par conséquent, toute bonne chose de la vie, c'est une faveur qui nous a été acquise par le sang précieux de Jésus-Christ. Et toute fierté, toute joie devrait avoir uniquement la croix pour motif. Malheur à moi, oh oui, si je tire ma fierté d'une bénédiction, quelle qu'elle soit, à moins que ma joie ne soit lié uniquement à la croix de Jésus-Christ. On peut exprimer la même vérité en affirmant que la croix de Christ visait la gloire de Jésus-Christ. Le but de Dieu au travers de la croix, c'était de honorer Jésus-Christ. L'affirmation de l'apôtre Paul, qui est donnée en Galates chapitre 6, verset 14, déjà mentionnée, il dit « En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Cela revient à dire que la volonté de Dieu, c'est que la croix soit toujours célébrée et que Jésus-Christ crucifié reste notre sujet de fierté, de jubilation, de joie et de louange, qu'il reçoive la gloire, la reconnaissance et l'honneur pour tous les éléments qui composent notre vie, qu'il soit bon ou soit transformé en bien pour nous, uniquement par Dieu. Ô chers amis, nous devons enseigner la passion de Christ crucifié. Voici la question qui surgit à présent. Écoutez bien. Si le but de Dieu au travers de la croix est que Christ soit honoré et glorifié pour toutes choses, de quelle façon celui-ci va-t-il recevoir la gloire qui lui est due? Ma réponse, c'est qu'il faut enseigner la génération actuelle à ce sujet-là. Autrement dit, pour tirer notre fierté de la croix de Christ, nous avons besoin d'être enseignés à son sujet. Le seul endroit pour nous glorifier de la croix, c'est sur la croix. Si notre désir est d'avoir la croix comme seul motif de fierté, nous devons vivre près d'elle. En fait, nous devons vivre sur la croix. Cela vous paraît peut-être choquant. Pourtant, c'est bien ce que affirme Galates chapitre 6, verset 14. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai la fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Nous ne pouvons nous glorifier de la croix que lorsque nous sommes sur la croix. N'est-ce pas ce que dit l'apôtre Paul ? Le monde est crucifié pour moi comme je le suis, c'est-à-dire crucifié pour le monde. Le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Pourquoi ? Parce que j'ai été crucifié. Nous apprenons à tirer notre fierté et notre joie de la croix lorsque nous sommes sur elle. Tant que mon moi n'y sera pas crucifié, eh bien, je serai uniquement fier de moi-même, de mon ego. Mais que signifie tout cela ? À quel moment cela s'est-il produit? Quand avons-nous été crucifiés? Notez Galates chapitre 2, verset 20. Quand avons-nous été livrés? Oui. J'ai été crucifié, est-il dit, avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vit? Non, non, non. Mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand Jésus-Christ est mort, nous sommes morts aussi. Il y a une glorieuse signification à la mort de Jésus-Christ. lorsqu'il est mort, eh bien tous les siens sont morts en lui. Avez-vous entendu? Toutes les Josiane, toutes les Francine, tous les Guillaume Gentil, toutes les Sabine et tous les autres sont maintenant des enfants de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Sa mort pour nous devient donc notre mort lorsque nous sommes unis à lui uniquement par la foi. Romains chapitre 6 verset 5. Peut-être direz-vous, ne sommes-nous pas en vie? Oh, je me sens absolument vivant. Cela révèle seulement notre besoin d'être enseigné. Et c'est pour cette raison-là que Galates, chapitre 2, verset 20, ainsi que Galates, chapitre 6, verset 14, figurent dans la Sainte Bible. Dieu nous y apprend ce qui s'est passé pour nous, afin que nous puissions nous connaître, mais aussi que nous puissions découvrir sa façon de procéder avec nous. C'est ainsi que nous serons en mesure de nous réjouir en lui, en Jésus-Christ, et à propos de la croix, comme nous devrions le faire. À présent, faisons le lien avec Galates chapitre 6, verset 14, et nous verrons comment nous pouvons parvenir à vivre entièrement pour la gloire de Jésus-Christ crucifié. Jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Cela revient à dire qu'il ne faut nous glorifier de rien d'autre que de la croix. Comment adopter une attitude si radicale quant à l'exaltation de la croix? Comment faire partie de la catégorie de personnes qui trouvent toute leur joie en Christ et en Christ crucifié? La réponse est très simple. Le vieux moi, qui prend plaisir à se glorifier, c'était moi autrefois, à jubiler et à se réjouir à propos d'autre chose, ce vieux moi est mort. Alléluia. Par la foi, nous sommes maintenant unis à Christ. Sa mort a signifié la mort de notre vie d'auto-exaltation. Nous sommes ressuscités avec lui à une vie nouvelle. Ce qui vit désormais, c'est la nouvelle créature guidée par la seule passion d'exalter Jésus-Christ et sa croix. En d'autres termes, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, notre asservissement au monde et à ses irrésistibles tentations prend définitivement fin. Nous sommes des cadavres pour le monde, et le monde en est un pour nous. On peut l'exprimer de façon positive, comme au verset 15 de Galates chapitre 6, en disant que nous sommes une nouvelle créature. Le vieux moi, il est mort. Un nouveau moi vit maintenant. Cette nouvelle identité est celle de la foi. Et la foi ne tire pas sa fierté du monde, mais uniquement de Jésus-Christ, et plus particulièrement de Christ crucifié. C'est ainsi que la croix devient le centre de notre vie, au point que nous pouvons dire maintenant, à l'instar de l'apôtre Paul, jamais, oh jamais, je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde a cessé d'être notre trésor. Il n'est plus la source de notre vie, de notre satisfaction, ni de notre joie. C'est Jésus-Christ qui a pris cette place. Chers amis, ce qu'il faut retenir, c'est que la gloire de Jésus-Christ manifestée particulièrement dans sa mort et dans sa résurrection est supérieure à toutes les bénédictions dont nous pouvions jouir jusqu'à maintenant. Par elle, la croix, Jésus a acquis toutes les bénédictions, qu'elles soient temporelles ou éternelles. Nous n'en méritons absolument aucune. C'est Jésus qui nous les a toutes acquises. Grâce à la croix de Jésus-Christ, les élus de Dieu sont destinés à devenir enfants de Dieu. Grâce à la croix de Christ, la colère divine est éloignée de nous. Grâce à la croix de Christ, toute culpabilité est effacée. Les péchés sont pardonnés. La justice parfaite nous est imputée. L'amour divin est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit et nous sommes transformés pour devenir conformes à l'image de Jésus-Christ. Pour terminer, chers amis, chaque réjouissance qui n'est pas une idolâtrie dans la vie présente et dans celle à venir, est donc un hommage à la valeur infinie de la croix de Jésus-Christ qui est le centre éblouissant de la croix et de la gloire divine. Par conséquent, une vie qui est centrée uniquement sur la croix, exaltant la croix, cette vie, elle est imprégnée de la croix. Et c'est une vie qui glorifie Dieu. Alléluia. C'est la seule vie qui glorifie Dieu. Or, toute autre manière de vivre correspond à une vie gâchée. Amen. Et chers amis, j'ai reçu dans mon cœur de vous transmettre encore quelque chose. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit m'a donné pour vous. Voilà. Le Seigneur nous dit, vous n'aurez jamais de sécurité dans cette vie, mais tant que vous vivrez, les larmes spirituelles vous seront toujours nécessaires. Vous êtes environnés d'ennemis. Ils vous attaquent à droite et à gauche. si vous ne vous couvrez pas de tous côtés du bouclier de la patience, vous ne serez pas longtemps sans blessure. Si de plus, votre cœur ne se fixe pas irrévocablement en votre Seigneur, avec la ferme volonté de tout faire pour son amour, vous ne soutiendrez jamais la violence de ce combat et vous n'obtiendrez point la palme des bienheureux. Il faut donc passer courageusement à travers tous les obstacles et lever un bras puissant contre tout, absolument contre tout ce qui s'oppose à vous. Car la manne, elle est donnée aux victorieux, et une grande misère est le partage du lâche. Si vous cherchez le repos en cette vie, comment parviendrez-vous au repos éternel? Ne vous préparez pas à beaucoup de repos, mais à beaucoup de patience et de travail. Cherchez la véritable paix, non sur la terre, mais dans le ciel, non dans les hommes, ni dans aucune créature, mais en Dieu seul. Vous devez supporter tout avec joie pour l'amour de Dieu, les travaux, les douleurs, les tentations, les persécutions, les angoisses, les besoins, les injures, les médisances, les reproches, les humiliations, les affronts, les corrections et les mépris. C'est là ce qui exerce à la vertu, ce qui éprouve le nouveau soldat de Jésus-Christ et ce qui forme la couronne céleste. Voulez-vous voir, dès le premier moment, ce que tant d'autres ont à peine obtenu après beaucoup de larmes et d'immenses travaux? Attendez le Seigneur et combattez avec courage. Soyez fermes, ne craignez point, ne reculez point, mais exposez généreusement votre vie pour la gloire de Dieu. Le Seigneur vous dit, « Je vous récompenserai pleinement et je serai avec vous dans toutes vos tribulations. » Chers amis, j'aimerais juste vous dire, avant de prier ensemble, sachez que je pouvais pratiquement plus parler, c'est la vérité. Je ne me permettrai pas de vous dire cela à la légère, à la fin de ma vie, car comme vous savez, j'ai 91 ans, et à cet âge, on ne devrait plus plaisanter. Chers amis, je voudrais simplement vous dire que j'ai beaucoup prié pour que le Seigneur me redonne suffisamment de voix et d'énergie pour pouvoir parler distinctement et surtout audiblement, pour que la voix puisse être entendue. Ce n'est pas évident à 91 ans. Donc, chers amis, sachez que la prière fervente de quelqu'un qui est sauvé et qui a été racheté à un très, très grand prix est une chose merveilleuse. Je peux en certifier. Et je prie aussi pour vous, comme vous priez pour moi. Prions maintenant. Ô Dieu, pardonne la pauvreté, la mesquinerie de nos prières. N'en écoute pas les paroles, mais les soupirs inexprimables, et prête l'oreille à l'appel de nos besoins véritables. Nous prions si souvent pour obtenir ce qui est déjà nôtre, pour obtenir ce que nous avons négligé de nous approprier, si souvent pour ce qui ne devra jamais ou ne devra jamais nous appartenir. Oui, nous prions si souvent pour ce que seuls nos propres efforts peuvent nous acquérir. Et nous travaillons sans fin à poursuivre ce que la prière seule nous peut donner. Combien souvent nous avons prié pour la venue de ton règne, nous l'avons désiré en dehors de nous, chez les autres, mais non pas dans nos propres cœurs. Nous sentons que c'est nous qui dressons une barrière entre les aspirations de l'homme et toi, entre nous-mêmes et ce que nous pourrions être, et nous sommes sans confiance en notre propre force, en notre loyauté, en notre courage. Oh, donne-nous, Seigneur, d'aimer ta volonté et de chercher premièrement ton royaume. Balaye nos craintes, nos compromis et nos faiblesses pour nous permettre de mieux te servir. Amen. Amen. Chers amis, souvenez-vous que Dieu vous aime. Oh oui, il vous aime. Au-delà de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et il est donc de mon devoir, oui, de vous aimer également. Vous pouvez me croire. J'ai déjà dit que je ne me permettrai pas de dire quelque chose qui n'est pas vrai, surtout que très bientôt, je dois rencontrer mon maître. Ce n'est pas du tout quelque chose que je dis à la légère. Donc, soyez bénis. Et je vous dis maintenant, oui, c'est vrai, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur et je vous enlace maintenant avec mes bras d'amour et je vous embrasse tous là où vous êtes et je vous dis oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Au revoir et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Bye bye. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Vaya con Dios.